Jour après jour, semaine après semaine, l'ensemble de l'équipe du Géopolitique cherche à vous proposer les analyses les plus pertinentes possibles. Cet objectif a une condition, sortir des émotions. Ainsi, nous allons tenter aujourd'hui ensemble de prendre du recul. Anna et Émilie vous proposent un second épisode de la rétrospective du Géopolitique qui analyse concrètement et rationnellement les événements de l'été dernier au Niger. Des événements qui ont été très largement médiatisés et qu'il faut aujourd'hui comprendre factuellement. Je vous laisse avec elle. Bonne écoute.
Bonjour à tous, nous vous retrouvons aujourd'hui avec Émilie pour un voyage assez particulier en Afrique et notamment au Niger, où nous vous proposons de faire le point sur ce qui s'est passé cette année et surtout de tenter de saisir les répercussions de ces événements sur l'année qui approche maintenant à grands pas. À la confluence du Sahel et du Sahara en Afrique de l'Ouest et entourée par le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria, le Tchad ainsi que la Libye, le Niger est généralement désigné comme un des pays les plus pauvres du monde. Victime d'un coup d'état militaire le 26 juillet, en plein cœur de sa capitale, Niamey, son président, Mohamed Bazoum, élu démocratiquement, est retenu depuis à peu près 2 mois par les putschistes. Ce putsch, initié par le général Abdourahmane Tchiani, le chef du CNSP, s'inscrit en réalité, comme vous le verrez, en réaction aux enjeux sécuritaires qui, de la menace terroriste à l'insécurité alimentaire, planent sur ce territoire enclavé. Pourtant, les conséquences de ce coup d'État et les dynamiques qu'il relève ne concernent en réalité pas uniquement le territoire national nigérien et s'étendent en effet bien au-delà. Ainsi, il sera question de comprendre ensemble aujourd'hui comment le coup d'État au Niger vient affirmer et parfois même remodeler les dynamiques géopolitiques qui le régissent. Pour cela, nous vous proposons avec Émilie, ici présente, une analyse multiscalaire de la situation, c'est-à-dire donc en d'autres termes, basée sur 3 échelles d'analyse, nationale, régionale ainsi qu'internationale.
Bien que cela paraît évident, à l'échelle nationale, le Niger est effectivement un pays originellement fragile et vulnérable. C'est un pays soumis à de fortes contraintes structurelles qui expliquent entre autres la pauvreté dont il est frappé, avec notamment sa situation géographique, enclavée qui lui consacre un déficit d'intégration à la mondialisation. Mais il est également soumis à de fortes contraintes environnementales, avec un climat de plus en plus aride, avec une partie nord carrément désertique, contrastant avec un sud arrosé de pluie en été, propice donc à accueillir la capitale et qui est donc plus densément peuplée que le nord. L'alimentation de la population, qui est de plus de 26 millions d'habitants aujourd'hui, est alors rendue problématique par cette désertification. S'ajoute à cela sa situation démographique avec un niveau de pauvreté extrême qui devrait atteindre 44,1% en 2023 en raison de la croissance négative par habitant mais également de l'inflation qui est croissante. La population du pays est, en plus de cela, appelée à doubler dans les 15 ans qui viennent, ce qui représente un défi important pour le développement économique et social du pays. Et même si des ressources naturelles sont présentes sur le territoire, leur exploitation ne se fait pas au profit de la population, malheureusement. Le Niger est le 3e producteur mondial d'uranium, pourtant 85% de la population n'a pas accès à l'électricité. Avec le coup d'État, la situation ne semble pas prête de s'améliorer. L'Organisation régionale de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, autrement dit la CDAO, a imposé par exemple en conséquence des sanctions économiques sévères et des fermetures de frontières bordant le Niger. Mais en plus de cela, des facteurs conjoncturels comme la menace terroriste accentuent la vulnérabilité du pays avec par exemple sa frontière avec le Nigeria, lieu de base logistique criminelle de Boko Haram menaçant le sud de l'État.
À présent, penchons-nous plus concrètement sur les conséquences régionales de ce coup d'État et la manière dont il s'inscrit dans l'effacement progressif des régimes dits démocratiques au Sahel. En effet, ces dynamiques de renversement des pouvoirs en place aboutissent sur la remise en cause des valeurs de démocratie et d'État de droit, notamment, comme vous l'aurez compris, dans la partie ouest du continent. Ainsi, c'est près de 6 coups d'État en Afrique sahélienne qui ont été perpétrés depuis 2020, dans 4 pays différents, dont 2 au Mali et au Burkina Faso, ainsi que 1 en Guinée et donc tout récemment au Niger. Enfin, comme vous pourriez me le faire souligner, dans les cas maliens et burkinabés, il est possible d'affirmer que l'expansion du terrorisme ainsi que des tensions politiques larvées ont amené l'armée à agir. Cependant, au Niger, ce putsch s'inscrit dans une dynamique assez différente et particulièrement intéressante dans le cadre de la géopolitique, celle de la remise en cause plus globale du multilatéralisme. C'est ce que tente notamment de souligner le politologue camerounais Achille Mbembe lorsqu'il qualifie le coup d'État nigérien de néo-souverainiste. Néanmoins, tous les putschistes dénoncent de manière générale les ingérences étrangères par leur illégitimité autant que leur inefficacité. Ici, en l'occurrence, celle de la France avec les opérations ces dernières années Serval et Barkhane. Il sera donc question de tenter de déterminer si l'émergence de juntes est le dernier avatar de la crise des démocraties et des tendances autoritaires observées au niveau mondial. Enfin, cela demeure une question bien débattable à divers égards, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis et comme on a l'habitude de le dire, 2024 nous le dira.
Enfin, nous assistons plus largement à une reconfiguration des acteurs internationaux concernés par la question nigérienne. La France, tout d'abord, a été rejetée du pays. Elle a quitté le Niger fin septembre avec le rappel de l'ambassadeur de France au Niger et le départ des 1500 soldats français stationnés dans ce pays. Les États-Unis, quant à eux, ont longtemps tenté de maintenir des liens diplomatiques et ils n'ont condamné que très dernièrement l'action des putschistes et mis fin à certaines des aides. Ne voulant pas remettre en cause leur engagement militaire dans la région, ils ont préféré, pendant un certain temps, privilégier la voie du dialogue, contrairement à l'attitude adoptée par la France. Le coup d'État pourrait aussi se faire au profit de la Russie et de Wagner, comme l'indiquent de nombreux propos scandés lors de manifestations rejetant la présence française. On pense bien sûr aux drapeaux français brûlés, contrairement aux drapeaux russes qui, eux, sont brandis avec fierté sur les places publiques. On comprend alors que l'enjeu international au Niger est majeur, principalement pour les intérêts économiques que le pays représente. On y trouve la présence de nombreuses ressources minières, mais malheureusement pas exploitées à nouveau au profit de la population. Le Niger, troisième producteur mondial d'uranium, fait face à une demande globale en forte hausse, mais reste exploité par des multinationales. Un nouvel acteur s'impose également de plus en plus alors, la Chine, est devenue le deuxième investisseur économique au Niger. Le coup d'État du 26 juillet pourrait néanmoins avoir un impact sur ce déploiement économique chinois l'année prochaine. Au vu de ces diverses dynamiques plutôt enclavantes, l'ancien gouvernement du Niger avait affirmé sa volonté d'acquérir une certaine indépendance économique vis-à-vis des ressources énergétiques dont il dispose, comme le montre le projet d'oléoduc géant devant acheminer des ressources pétrolières du sud-est jusqu'au Bénin. Cette oléoduc long de près de 2000 km s'inscrivait ainsi dans l'objectif d'utiliser les ressources issues de l'exploitation afin d'assurer la souveraineté et le développement du pays. Pourtant, de façon surprenante ou pas, c'est à vous d'en juger, l'or noir au Niger est aujourd'hui toujours extrait par la Chine.
Ainsi, comme vous aurez pu le comprendre ici, le coup d'État du général Tchiani a véritablement remodelé les dynamiques locales, régional et international, qui faisait déjà du Niger un territoire en position de vulnérabilité. L'enjeu majeur pour le Niger reste aujourd'hui donc l'émergence de nouveaux partenariats pour faire face au rejet occidental et de façon à tirer profit de son territoire particulièrement convoité. Au vu de l'année qui approche maintenant à grands pas, on peut donc se demander si cette vague de coups d'État en Afrique, soldée par notamment celui donc au Niger, se prolongera dans cette région et la manière dont la France également tentera de répondre à ce défi. En tout cas, puisque cette chaîne repose avant tout sur vous, n'hésitez pas à nous joindre votre avis sur la question dans l'onglet « Communauté ». Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour profiter de nouvelles plongées dans les dynamiques complexes qui régissent notre monde. Et à très bientôt.
J'espère sincèrement que vous avez passé un agréable moment à écouter notre second épisode de la rétrospective et je tiens à remercier tout particulièrement Anna et Emily qui n'ont pas l'habitude de parler derrière un micro comme moi, Antoine, Lamia ou Manon peuvent le faire. Elles se sont démenées et je les en remercie. On se retrouve de notre côté dans 2 jours pour un nouvel épisode, le 3e. On va parler ensemble d'un autre sujet fascinant. Je garde le suspense. Rendez-vous dans 2 jours sur toutes les plateformes de streaming. Et puis, d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.